Alors, au-delà des facteurs génétiques, vous l'avez dit, Florence Clavaguerra, notre style de vie va aussi moduler la façon dont nous allons vieillir. Et on va accueillir Gaëlle Chetla, directrice de recherche INSERM à Caen, qui va venir nous parler des différents... Où est-elle, Gaëlle? Est-ce que Gaëlle est là? Mais oui, Gaëlle est là. Je ne l'avais pas vue. Vous allez nous parler des différents facteurs de risque ou de prévention. Et vous, vous vous intéressez particulièrement à la méditation. Alors, on quitte les laboratoires de recherche biologique et on va vraiment parler maintenant d'autre chose. Vieillir en pratiquant la méditation, est-ce un rempart contre la maladie? C'est à vous.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation et merci à la Fondation pour son invitation et puis pour supporter nos recherches. Je vais donc vous parler de la méditation dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et je vais essayer de vous présenter pourquoi cette idée-là, pourquoi la méditation comme rempart envers la maladie d'Alzheimer. Et notamment, je vais vous parler d'un très gros projet européen qu'avec 11 partenaires européens, nous avons monté pour essayer de mieux comprendre quel pourrait être l'impact de la méditation sur le bien vieillir en général et plus particulièrement pour essayer de réduire les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Et on va essayer de voir ça à travers ces petites questions, qui, quoi, pourquoi, où, quand, comment, qui d'abord. Qui, eh bien, ce sont les personnes de plus de 65 ans qui sont de plus en plus nombreuses dans nos sociétés, tant en termes de pourcentage qu'en termes de nombre, puisque notamment avec l'augmentation de l'espérance de vie, eh bien, on a une augmentation de ce nombre et de ces proportions. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, c'est très bien. Par contre, il faut bien reconnaître qu'avec l'âge, il y a un certain nombre de maladies et de conditions qui viennent dégrader la qualité de vie. Et donc, si on augmente l'espérance de vie, ce qui est vraiment important, c'est d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Parce que sinon, on augmente l'espérance de vie en mauvaise santé. Voilà les principales conditions qui vont venir dégrader la qualité de vie alors qu'on prend de l'âge. Il y a la dépression déjà, avec, vous voyez, 10 à 15% des plus de 65 ans qui sont atteints par la dépression, par notamment... d'un type particulier de dépression, la dépression de fin de vie avec l'avancée en âge. Les problèmes de sommeil, là, plus de 50% des personnes de plus de 65 ans vont se plaindre d'un aspect ou l'autre de leur sommeil. Ils vont se plaindre de mal dormir, de se réveiller trop tôt, de se réveiller plein de fois, de ne pas réussir à s'endormir, d'avoir un sommeil non réparateur et que pendant la journée, du coup, sont plus fatigués ou moins... plus de mal à garder leur attention. Et puis, la démence, avec environ 10% des plus de 65 ans qui sont atteints. Et puis, la crainte de toutes les personnes qui dépassent 60 ans d'être atteintes par cette maladie. On sait par ailleurs que les émotions négatives, l'anxiété, le stress, la dépression, les problèmes de sommeil, toutes ces conditions... sont associées à un déclin cognitif et vont également interagir les unes avec les autres. Quand on est un peu déprimé ou anxieux, on va moins bien dormir. Quand on dort moins, parfois, on a plus de mal à réguler ses émotions. Donc ça fait un cercle vicieux, on va dire. Et donc, ces éléments sont associés avec un déclin cognitif. Et puis, bien sûr, comme je disais, ils viennent dégrader le bien-être et la santé mentale et l'âge. Dans le cadre du vieillissement, donc au-delà de 65 ans, on va dire, est associé avec une augmentation de ces facteurs négatifs. Alors quoi? Ce qu'on propose, c'est la méditation. Donc avant d'expliquer pourquoi, qui est peut-être le cœur du sujet, je vais juste expliquer ce que c'est que la méditation, parce que on garde vraiment peut-être en tête, pour certains, la fausse idée selon laquelle la méditation, c'est une pratique religieuse qui consiste à s'isoler dans une grotte à 8000 mètres d'altitude, à s'asseoir en lotus et à rester sans bouger, les yeux fermés pendant plusieurs heures. Alors déjà, la méditation, ce n'est pas une pratique religieuse. Donc, notamment, il y a des pratiques qui ont été converties pour les sociétés occidentales et qui sont notamment dénuées de tout aspect religieux. Comme la méditation pleine conscience, qui est celle dont on parlera le plus, dont on parle le plus dans le cadre de la recherche. On n'a pas besoin de s'asseoir en lotus, on peut voilà, s'asseoir comme on veut. On n'a même pas besoin de s'asseoir d'ailleurs, on peut méditer debout. On peut méditer en marchant. Voilà. On n'a pas besoin d'être dans une grotte à 8000 mètres d'altitude. On peut être dans son bureau, dans sa chambre. Voilà. On n'a pas besoin de méditer pendant plusieurs heures. On peut très bien méditer quelques minutes sur le trajet du métro. Voilà. Et puis, comme je disais, on peut marcher. On n'est pas obligé de rester sans assis. On peut méditer en marchant. Et enfin, on n'est même pas obligé de fermer les yeux. On peut méditer les yeux ouverts. Donc du coup, ce n'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, méditer, c'est en fait, la méditation, c'est une famille de techniques d'entraînement mental, une famille de stratégies de régulation émotionnelle et attentionnelle qui vont être développées dans différents buts, mais notamment pour développer un bien-être et un équilibre émotionnel. Comme je le disais, la pratique séculaire non religieuse de méditation de pleine conscience, c'est celle qui est la plus souvent utilisée en recherche scientifique. Il existe notamment des programmes standardisés de méditation pleine conscience de 8 semaines qui sont standardisés dans le sens où il y a des instructions très précises qui sont les mêmes, et donc ça permet d'appliquer la même intervention dans différents centres par exemple, etc., parce que c'est une procédure qui est bien standardisée. Donc voilà. C'est ces programmes dits MBSR, pour Mindfulness Based Stress Reduction, sont souvent employés dans le cadre des recherches sur la méditation. La méditation pleine conscience, elle consiste à cultiver une conscience vigilante de ses propres pensées, de ses actions et de ses émotions, mais aussi de ses motivations, et de cibler directement les capacités de régulation de l'attention et des émotions, ce qui est particulièrement important dans le cadre du vieillissement, on va le voir, mais notamment parce que les capacités attentionnelles, c'est une des capacités qui va être le plus enclin à décliner alors qu'on prend de l'âge. Et puis, il existe d'autres types de méditation, hein, comme on l'a vu, dont on parlera moins, mais il y a par exemple la méditation compassion-bienveillance qui vise à cultiver la bienveillance, l'acceptation de soi et le soin de soi et des autres. Alors, pourquoi la méditation ? Comme on l'a vu justement à la fin de la présentation précédente, il y a des facteurs qui permettent de protéger pour la maladie d'Alzheimer. Il y a des facteurs de risque et des facteurs protecteurs. Et on s'y intéresse de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir vraiment un impact pour réduire les risques de maladie d'Alzheimer. Et que si, par exemple, on fait attention à notre santé cardiaque, si on est actif physiquement, si on suit un régime alimentaire qui est de type méditerranéen, qui est plutôt bénéfique, si on va avoir tendance à faire travailler notre cerveau, et si on a des activités sociales épanouissantes, eh bien, on va pouvoir réduire nos risques de maladie d'Alzheimer. On s'intéresse donc de plus en plus à ces facteurs, et c'est vraiment pas anodin, parce que, par exemple, ça a été montré qu'en réduisant de 25% les facteurs de risque suivants, par exemple en réduisant de 25% l'éducation faible, eh bien on pouvait réduire de plusieurs millions, ici 1,5 million, le nombre de cas atteints de maladie d'Alzheimer dans le monde. Et c'est la même chose pour les autres facteurs de risque majeurs. Donc il y a réduction de la cigarette, de l'inactivité physique, de la dépression et de l'hypertension et du diabète. Et donc, ce qui a été montré, c'est que ces facteurs de vie-là, qui sont des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs, selon dans quel sens on les prend, eh bien, ils vont avoir un impact tout au long de notre vie. Mais si on s'intéresse à la dernière partie de vie, enfin, ce qu'on appelle le late life, on va dire le plus de 65, 70 ans, parce qu'aujourd'hui, à 60 ans, on n'est pas très âgé, en fait, mais, eh bien, vous voyez que les facteurs de risque les plus importants, c'est le fait de fumer, la dépression, l'inactivité physique, l'isolement social et le diabète. Et donc, voilà, on propose que la méditation puisse agir contre certains de ces facteurs et notamment contre les émotions négatives, l'anxiété, le stress, la dépression et les problèmes de sommeil. En fait, beaucoup d'études se sont ont été menées pour essayer de montrer qu'en modifiant ces facteurs de risque, on pouvait réellement réduire le nombre de cas atteints de maladie d'Alzheimer. Ces études, elles ont essayé de combiner plusieurs stratégies, notamment de proposer un programme d'entraînement physique, en même temps d'entraîner les personnes à un régime alimentaire qui soit plus approprié, et en même temps de faire une prévention contre les risques cardiovasculaires. Mais si on regarde l'ensemble de ces études dans la littérature, il n'y en a aucune qui va directement cibler les facteurs plus émotionnels du vieillissement, ceux que je viens de citer, stress, anxiété, dépression, problèmes de sommeil. Et donc, voilà, on va proposer ici la méditation pour essayer de cibler plus directement les aspects plus émotionnels du vieillissement. On ne sait pas grand-chose encore sur la méditation au niveau scientifique, parce que c'est assez récent que les scientifiques s'y intéressent. Mais ce qui a été montré, c'est que la méditation permettait d'améliorer certains aspects cognitifs, certaines fonctions cognitives, et notamment l'attention, surtout, et la mémoire. Alors, on ne va pas faire un exercice de méditation ici, mais pour ceux qui ont déjà pratiquer la méditation dans un contexte ou un autre, je pense que quand on pratique, on s'aperçoit rapidement que c'est un exercice d'attention beaucoup, où on essaye de vraiment prendre conscience de où va le focus de notre attention et de se rendre compte quand ce focus de notre attention nous a échappé. Par exemple, on essaye de faire attention à un enfant qu'on surveille et puis tout à coup, hop, on est ailleurs parce qu'on pense aux courses d'hier, aux courses qu'on a à faire demain, à telle personne ce qu'elle nous a dit, etc. Et donc, cet exercice de méditation, en premier lieu, il nous permet, d'exercice, en fait, de muscler cette capacité à faire attention de où est notre attention et à volontairement rediriger cette attention sur le focus que l'on a décidé de mettre. Et donc, ce n'est pas étonnant que la méditation, qu'il ait été montré que ça s'accompagne d'une amélioration de certaines fonctions cognitives et notamment l'attention. Il y a également des études qui montrent que la méditation mettrait surtout en jeu des régions frontales et limbiques, et donc permettrait d'améliorer la structure et le fonctionnement cérébral, surtout de ces régions-là, qui sont aussi des régions importantes quand on s'intéresse au vieillissement et à la maladie d'Alzheimer, parce que ce sont ces régions qui vont être fragilisées. La méditation permettrait d'augmenter l'activité des télomérases, des petites enzymes qui vont venir protéger l'extrémité des chromosomes qui a tendance à s'altérer alors qu'on prend de l'âge et qui donne l'âge biologique de nos cellules. Et donc, c'est quelque chose également d'intéressant dans le cadre du vieillissement. Et enfin, des études qui montrent vraiment un impact sur le stress, l'anxiété, la dépression, l'insomnie, sentiment de solitude et d'exclusion sociale, des mots qui résonnent dans le cadre du bien vieillir. Alors, c'est un projet c'est un projet européen, donc il se fait dans plusieurs pays européens. On va s'intéresser à l'impact de la méditation, mais aussi d'autres facteurs de vie. On va s'intéresser à cet impact sur la cognition, le bien-être et les biomarqueurs du vieillissement et de la démence. Et on va s'intéresser aux mécanismes d'action, principalement les mécanismes attentionnels et émotionnels. Et puis, pour cela, on a des experts dans différents pays d'Europe, en France avec Antoine Lutz, Julie Gonneau, postdoc dans mon laboratoire pour les facteurs de vie. En Belgique, Fabienne Colette pour l'attention. Les processus émotionnels vont être étudiés en Suisse avec l'équipe d'Olga Klimeki et Patrick Villemier. En Angleterre, on a Nathalie Marchand pour cognition bien-être et mon équipe, on est responsable des biomarqueurs. Voilà pour le où a lieu ce projet et quand et comment. Eh bien donc, c'est un projet H2020, donc de la Commission européenne, pour lequel vous pourrez trouver plus d'informations sur le site internet que j'ai indiqué ici. Et dans ce projet-là, en fait, il y a deux gros essais cliniques qui visent vraiment à tester si la méditation peut avoir un impact positif sur le vieillissement et notamment sur des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer. Alors, on a un premier essai clinique qui porte sur des patients SCD. SCD, ça veut dire Subjective Cognitive Decline, c'est-à-dire qu'ils ont des déficits cognitifs, mais subjectifs. Eux ressentent les déficits. Quand ils vont faire des tests, ces déficits ne sont pas ou pas encore visibles dans les tests. Et donc, c'est ce statut de déficit subjectif est associé à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. Pour certains, c'est juste, c'est complètement anodin, mais pour d'autres, ce sont les prémices de la maladie. Donc on s'intéresse à ces patients pour lesquels il n'y a pas évidemment de réponse à apporter. Et donc on pense que c'est particulièrement important de répondre au moins à leur anxiété, leur dépression, leur angoisse, en leur permettant peut-être une intervention adaptée. Donc ici, on a une intervention de 8 semaines qui correspond en fait à l'intervention standardisée de pleine conscience dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, on souhaite, à la fin de ces 8 semaines, regarder l'impact sur notamment l'anxiété, qui est notre critère principal, et puis sur tout un tas d'autres fonctions qui nous intéressent, cognitives ou de facteurs de vie, et puis également des examens sanguins. Le deuxième essai clinique porte sur 140 personnes de plus de 65 ans qui sont cognitivement intactes, pour lesquelles on va avoir un certain nombre d'examens comportementaux, mais aussi de biomarqueurs, notamment les biomarqueurs associés au vieillissement ou à la démence, ou au risque de démence, et puis des biomarqueurs d'imagerie, notamment. Ensuite, les personnes vont être réparties au hasard dans 3 groupes. Un groupe qui, pendant 18 mois, va méditer, un groupe qui pendant 18 mois va apprendre l'anglais, et puis un groupe qui va ne pas avoir d'intervention, puisque c'est notre groupe contrôle passif. À la fin des 18 mois, on refait l'ensemble des examens, et voilà, l'objectif étant de comparer l'impact des deux interventions par rapport à aucune intervention. La première étude s'est terminée en 2019 et nous venons de publier les premiers résultats qui montrent un impact positif des deux interventions, l'intervention méditation et l'intervention contrôle, qui est un programme d'éducation à la santé dont on connaissait déjà l'impact positif et auquel on voulait comparer l'impact de la méditation. Donc on a montré un impact positif de ces deux interventions sur le score d'anxiété de ces patients présentant un déficit cognitif subjectif. Et puis, pour la seconde étude, je ne sais pas combien de temps il me reste. Est-ce que vous voulez que je raccourcisse peut-être pour
continuer. Ça va. Très bien.
OK. Pour la seconde étude, eh bien, en fait, ces 130, on va dire, seniors ont eu, comme je disais, un ensemble d'examens, également des examens sanguins permettant de mesurer des marqueurs sanguins, notamment, par exemple, l'activité des télomérases. Des marqueurs d'imagerie. On va mesurer également sur toutes les coutures la qualité du sommeil, le sommeil subjectif, donc comment la personne a l'impression de dormir, elle, si le sommeil lui semble réparateur ou pas, mais également avec des mesures objectives. Par exemple, on va faire une polysomnographie en mettant des électrodes sur le crâne pendant 2 nuits, une nuit d'habituation et une nuit de mesure, ce qui permet vraiment de mesurer tous les paramètres du sommeil, les différents stades du sommeil, etc., et de vérifier objectivement la qualité de ce sommeil. Et puis, la répartition aléatoire, comme je vous le disais, dans les 3 groupes, avec l'ensemble des examens qui vont être répétés à la fin des 18 mois. Dans le cadre de cette même étude, on va également recruter 30 experts méditants, eux-mêmes de plus de 65 ans, pour voir lorsqu'on a eu... Alors, ce qu'on appelle experts méditants, c'est des personnes comme Mathieu Ricard, qui ont médité un peu toute leur vie, en tout cas depuis qu'ils ont 20 ans. Ils ont 20, 30, 40 ans de méditation. Ils ont 10 000, 20 000 heures, 40 000 heures de méditation à leur actif, dont la moitié souvent en retraite, dans des retraites intensives de méditation. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est 2 choses. Premièrement, regarder justement si leur cerveau est peut-être mieux préservé des effets du vieillissement. Leur cerveau, entre autres, on va s'intéresser au même biomarqueur ici, donc il y a plein d'autres choses que le cerveau. Et également, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes. Donc en fait, ces personnes-là, on va leur demander, sous la caméra d'imagerie, pendant qu'on mesure l'activité de leur cerveau, de faire des exercices de méditation différents. Donc il y a différentes pratiques de méditation, et on va voir les régions cérébrales qui vont être impliquées, et ça va être pour nous des signatures de... des types de méditation, et ensuite on va utiliser ces signatures-là pour essayer de comprendre quels étaient les mécanismes impliqués dans l'étude principale ici. Voilà, je vous remercie, et je remercie toute l'équipe du projet européen qui est impliquée dans ce projet-là, et la Fondation Recherche Alzheimer.
Merci beaucoup. Alors les résultats, c'est pour quand ?
Alors, les résultats de la première étude viennent tout juste d'être publiés. Vous voyez qu'elle a été terminée en 2019. Ça prend toujours beaucoup de temps de pouvoir juste déjà récupérer les données. Parce qu'en fait, on recueille les données, mais après, dans la recherche, il y a tout un processus de contrôle des données et puis pour délivrer ces données. Ça prend plusieurs mois, voire parfois un an. Et donc, pour le deuxième projet, on vient tout juste d'avoir accès à ces données-là. C'est un projet qui l'étude s'est terminée fin 2020. Et on vient tout juste de pouvoir accéder aux données. Donc, on est très activement sur les analyses en ce moment dans tous les laboratoires que j'ai cités.
Est-ce que vous avez déjà des confirmations, des surprises à la lecture de ces premiers résultats ?
Alors, ce qui nous a vraiment surpris et ce qui nous a vraiment interpellés, c'est qu'en général, on a un taux d'attrition dans les études qui va entre 10 et 20%. Qui se rapproche plutôt de 18%, c'est-à-dire qu'environ une personne sur cinq quitte l'étude en cours, surtout une étude comme ça qui est longue, hein, c'est 18 mois. C'était assez prenant parce que les personnes, on leur demandait de venir pour une séance de groupe de 2 heures, une fois par semaine, pendant 18 mois, mais aussi de pratiquer chez eux tous les jours à l'aide d'une tablette avec des petits exercices d'anglais ou de méditation selon le groupe. Et donc, tous étaient très, très, très impliqués, faisaient leurs exercices tous les jours, ont bouleversé leur plan de partir de départ en voyage, en vacances, pour pouvoir participer à l'étude. Donc, c'est une implication très importante. Et en fait, on n'a eu aucun zéro abandon en cours d'études. Tout le monde est revenu faire tous les examens de fin d'études, donc ce qui était assez extraordinaire. Donc, voilà, si je ne peux pas vous dire des résultats d'analyse en soi...
C'est encore secret, c'est comme le suspense autour du médicament, il faut attendre encore un tout petit peu.
Voilà, on n'a pas vraiment le droit de donner des résultats.
Mais en tout cas, les personnes se sont prises au jeu, elles se sont investies, hein, c'est ça qu'on peut dire déjà.
C'est un investissement assez hors pair dans cette étude. Et puis, voilà, il y en a qui ont décidé beaucoup ont décidé de continuer après l'étude et ils ont mis en place un groupe pour... continuer soit l'anglais, soit la méditation. Ils ont réussi à convaincre les enseignants de continuer à leur donner des cours. Donc voilà,
Est-ce qu'on peut imaginer que toutes les activités qui vont jouer sur la régulation du stress, de l'anxiété, etc., pourraient avoir des résultats? Peut-être que c'est du Qigong, peut-être que c'est du Tai Chi, peut-être que c'est une activité sportive, enfin autre chose pourrait avoir des résultats similaires?
Complètement. Il y a plusieurs mécanismes que l'on pense être impliqués, actifs, on dit. Il y a plusieurs mécanismes actifs que l'on pense être contenus dans la méditation. Certains peuvent être trouvés ailleurs. Donc, on a parlé, par exemple, de la régulation émotionnelle et chacun développe ses stratégies pour essayer de se déstresser quand on est stressé. Et ça, je pense que ça peut être...
Aller marcher une heure en forêt au milieu des arbres, par exemple.
Exactement. Aller papoter chez une copine, manger de la glace. Voilà. Bon... La méditation, au-delà de ça, on est assez convaincu qu'elle apporte d'autres éléments également, alors qu'on va pouvoir retrouver aussi certains ailleurs, hein, mais notamment cette régulation attentionnelle, qui est aussi une des composantes que l'on pense active, spécifique de la méditation, au-delà de la régulation émotionnelle. Et puis en fait, une certaine modification à long terme d'un mode de vie. C'est-à-dire qu'avec la pratique régulière de la méditation, va s'installer... une modification progressive du mode de vie et de certaines habitudes, par exemple alimentaires, etc. Et ça va souvent accompagner également, on l'a observé, la pratique de la méditation et avoir un impact positif sur le bien-vieillir et le risque de démence.
Alors là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut se diriger vers la méditation en groupe? Est-ce que c'est toujours en groupe ou pas? Vous l'avez un petit peu dit. Et est-ce que la durée de la séance est également clé?
La méditation, ce n'est pas forcément en groupe, c'est en groupe ou non, hein, c'est selon les instructeurs qu'on trouve. Ce qui est important, parce qu'on trouve plein d'outils, par exemple des applications pour nous faire méditer. Moi, ce que je trouve vraiment, ce dont je suis convaincue, c'est qu'au départ, lors de l'apprentissage, c'est vraiment important d'avoir un enseignant qualifié, certifié pour apprendre, qui va vérifier avec vous par des questions, en réorientant, etc., que vous allez dans la bonne direction. C'est un exercice mental. C'est un exercice comme se muscler, sauf que c'est mental, et donc ce n'est pas évident de savoir si on comprend bien et si on fait bien, entre guillemets.
Donc, il y a des outils qui sont quand même... On a vu le succès de Petit Bambou, notamment pendant le confinement, mais déjà auparavant.
Voilà. Ou c'est Ces outils peuvent être très utiles, mais c'est important au tout départ d'avoir un enseignant, quelqu'un qui parle, qui existe, une entité biologique qui va nous répondre, intelligente, et qui va s'adapter et adapter son discours à la personne qui est en face et aux difficultés qu'elle va pouvoir rencontrer. Donc voilà, ces outils, c'est utile, et nous, notamment, on en a aussi proposé à nos participants pour pratiquer chez eux, tout seuls, etc. Mais au début, en tout cas, je pense que c'est vraiment important de pouvoir bénéficier d'un enseignement avec un enseignant expert.
Et jusqu'à quel stade de la maladie peut-on proposer cette activité à un malade Alzheimer ?
C'est dur de répondre, il y a très peu d'études dans le vieillissement, il y en a encore moins dans la maladie d'Alzheimer. Ce qui est sûr, c'est que si on proposait cette intervention, ou en tout cas cette pratique à des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, il faudrait l'adapter aux patients. Après, on connaît avec l'évolution de la maladie certaines fonctions qui vont être préservées le plus tard possible, et on peut méditer, on peut choisir comme outil de méditation différentes choses qui vont être plus ou moins complexes et plus ou moins accessibles aux patients. Par exemple, alors que la maladie évolue, on garde quand même des capacités sensorielles qui vont être très développées, et on peut apprendre à méditer davantage sur ces capacités sensorielles, sur le toucher, sur voilà, et utiliser ça comme outil de méditation pour essayer d'aider le patient à méditer alors qu'il évolue dans la maladie.
Ça peut être une activité partagée avec un aidant. Ça peut aussi être une activité où justement l'aidant prend un petit pas de côté et laisse la personne participer à une activité sans lui. On a vraiment un éventail de possibilités.
Voilà, on peut méditer avec son petit enfant. Ça va être l'activité qu'on va faire peut-être avec sa petite fille, son petit garçon. Et il y a des exercices de méditation qui se font à deux, justement, très intéressants, plus par exemple basés sur bienveillance, compassion, et le fait d'être à deux peut aider à faire ces exercices de pratique qui sont également, on pense, vraiment bénéfiques dans le cadre du vieillissement, où on a un certain nombre de difficultés que l'on rencontre tout au long de la vie, mais particulièrement alors qu'on prend de l'âge, par exemple le décès de ses proches, etc. Et donc ces pratiques plus orientées vers la régulation émotionnelle, bienveillance, compassion, c'est quelque chose qui peut être particulièrement un outil de plus qui peut être vraiment utile à ce moment-là.
Alors, nous n'avons pas parlé de sophrologie et de yoga. Donc, Jacqueline nous dit que ce sont également des activités qui peuvent être intéressantes. Je pense que vous ne lui direz pas l'inverse.
Complètement.
Alors, dans un tout autre ordre d'idées, vous n'avez pas parlé de la prise d'alcool dans les facteurs de risque, mais naturellement, Micheline a raison, ça fait partie des facteurs de risque identifiés.
Complètement. Donc là, j'ai présenté les rapports principaux qui résument les principaux facteurs de risque, et j'ai focalisé sur les facteurs de risque alors qu'on a plus de 65 ans. Mais c'est vrai que la consommation excessive d'alcool, ou le mésusage de la consommation de l'alcool, a un impact vraiment négatif sur les fonctions cognitives et notamment sur les risques de démence également. Oui.
Où trouver des moniteurs et à l'entraînement mental et à la gestion du stress et des émotions ? Est-ce que vous pouvez conseiller Daniel ?
Oui, alors donc j'ai parlé de le mindfulness-based stress reduction, donc la méditation de pleine conscience à visée de réduction du stress et de régulation des émotions. Ces pratiques de MBSR sont proposées régulièrement par différents intervenants. Donc, j'en ai pas de particulier à vous conseiller, mais en tapant sur Internet MBSR pour mindfulness-based stress reduction, vous trouverez des formateurs qui proposent ce type de formation standardisée. Je pense que c'est un bon point de départ parce que c'est léger, c'est tout à fait implémentable dans notre vie quotidienne. Et à partir de là, en fait, les enseignants sont pas mal pour vous orienter vers d'autres formateurs ou d'autres enseignements qui vont vous permettre d'approfondir un aspect ou un autre selon votre souhait ou vos besoins.
Alors, parfois, on a l'impression que ce n'est pas pour nous. Moi, je suis trop active. Mmh. Quand on a préparé ces entretiens, vous m'avez parlé de votre grand-mère,
oui,
qui a 95 ans. Et racontez-moi, une grand-mère super active. Ça l'amusait un peu de vous voir travailler sur la méditation. Elle ne se sentait pas concernée ?
Oui, elle s'est toujours beaucoup intéressée à ce que je fais. Je me rappelle qu'elle était venue à ma thèse en train. Et puis, quand j'ai eu fini de présenter, elle m'a montré la thèse bourrée de post-it en me disant « J'ai préparé des questions. » Donc, elle est toujours très intéressée, très active. Si son ordi tombe en panne, ça va l'énerver parce qu'elle n'arrive pas à contacter le réparateur. Alors, elle va prendre des cours pour apprendre à réparer les ordinateurs. Et donc, si je lui dis que je travaille sur la méditation, ça va la passionner, elle va s'intéresser, puis elle va se dire « Bon, je vais méditer alors », puis elle va essayer. Et puis, en fait, ça la contrarie beaucoup parce qu'elle me dit « Je m'ennuie, c'est pas pour moi, j'arrive pas à rester sur place comme ça. » Et donc, je dis juste « Mais tu médites pas si t'as pas envie, c'est pas grave. Tu vas faire d'autres choses, tu fais plein d'autres choses. » Et donc, c'est un peu le message qu'il y a plein d'ingrédients vers le bien vieillir et chacun trouve celui qui lui correspond ou ceux, la bonne combinaison. Donc nous, les scientifiques, on peut apporter des preuves, des évidences et des informations sur les facteurs qui semblent être protecteurs ou bénéfiques. Après, chacun choisit les ingrédients qui lui conviennent.
Une activité qu'on fait sans plaisir, c'est rarement une activité qui fait bien, mais pour autant, on peut essayer, même quand on a l'impression que ce n'est pas pour nous. Hein, c'est un petit peu le message.
C'est accessible à tous, par contre. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire dont on doit se forcer si ça ne nous dit pas ou si on a essayé et que ça ne nous plaît pas. Par contre, c'est quelque chose qui, contrairement à ce que certains pensent, est vraiment accessible à tous.
Et puis peut-être ça ne plaît pas dans telle étape de la vie, et puis ça pourra plaire quelques années plus tard, on ne sait pas. Oui. Est-ce que l'écriture peut être utile, écrire ses mémoires, un roman, voilà, me demande Gilbert.
Alors, c'est difficile de faire une réponse scientifique, parce que, étant scientifique, c'est ce que je suis censée faire. Donc, je n'ai pas connaissance personnellement d'études précises qui montrent que l'écriture peut avoir un impact positif. Par contre, on peut imaginer que le fait d'écrire, eh bien, ça fait travailler plein de fonctions cognitives, ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler l'orthographe, ça fait travailler le cerveau de façon générale. Et donc, on peut penser que ça ait un impact positif. Les interactions sociales sont importantes aussi. Donc, peut-être ici, quand on va partager ce qu'on a écrit avec d'autres ou participer à des ateliers d'écriture, par exemple. C'est des choses aussi qui peuvent avoir un impact positif dans les activités sociales. En fait, quand on interagit socialement, là aussi, on fait énormément travailler notre cerveau. On ne se rend pas forcément compte parce que c'est naturel, mais on lit sur le visage de l'autre ce qu'il peut bien penser de ce qu'on dit. On construit notre phrase et en même temps, on anticipe ou on réagit directement aux regards qui nous sont donnés. Si la personne fronce un peu les sourcils, on reformule directement. Tout ça se fait dans un langage non-verbal qui est instantané et qui demande en fait plein de fonctions cognitives. Et donc les mettre en œuvre, les exercer, peut avoir un impact positif.
Merci beaucoup Gaëlle Chetla pour tous ces éclaircissements.